Alors, on va parler du principe de la sanctification. Parce qu'il y a un principe dans la sanctification, il y a des lois qu'il faut connaître si on ne veut pas perdre de temps ou être confus à un moment donné. Les témoins de Jéhovah enseignent que la sanctification, c'est uniquement l'effort de l'homme pour prouver à Dieu qu'ils sont dignes du salut. Alors, on exclut complètement l'idée que Dieu puisse aider le croyant à se sanctifier, puis la Bible en parle pourtant de ça très clairement. Il y a des chrétiens évangéliques qui n'ont pas une vision des choses tellement différentes, vous savez. On a beau dire être sauvé par la foi, n'empêche qu'on peut fonctionner drôlement sur le principe des œuvres dans la vie de tous les jours, par exemple. Même avec toutes les connaissances scientifiques que l'homme possède aujourd'hui, il n'y a aucune chance pour qu'il puisse arriver un jour à changer l'eau en vin, comme notre Seigneur l'a fait. Cette transformation-là a nécessité une intervention de Dieu. De même, l'homme ne peut pas se changer lui-même plus qu'il peut changer l'eau en vin. La sanctification nécessite la même intervention divine dans la vie de l'homme. Cette intervention-là, ben Dieu l'a faite en Jésus-Christ. J'ai prié pendant plusieurs années personnellement pour comprendre comment fonctionnait la sanctification dans le domaine pratique. Puis j'aimerais partager avec vous autres ce que j'ai trouvé, en espérant que ça puisse aider quelques-uns. Dieu n'exige pas qu'on soit saint en nous abandonnant à nous-mêmes. C'est bien important qu'on sache ça. L'Écriture fait bien comprendre que Dieu joue lui-même le rôle principal dans notre sanctification, plutôt l'a joué. Moi, quand ma petite fille avait 3 ans, là, elle avait de la misère à mettre ses petites bottes d'hiver toute seule. Fait que pour l'aider, je plaçais ses petites bottes debout là, par terre, puis elle se tenait devant moi. Puis là, elle se tenait après ma tête avec ses 2 petits bras, puis elle enfilait ses bottes comme ça. Bon, j'aimais ça qu'elle fasse ça. Ça va être vraiment un beau souvenir pour moi, hein, quand je vais être vieux. Mais de la même façon, Dieu aime nous aider dans nos efforts de sanctification. C'est la même chose. Dieu désire nous assister dans l'œuvre de notre sanctification. Loin d'être un maître dur et insensible à nos difficultés dans ce domaine-là, Dieu prend un réel plaisir à nous venir en aide. C'est ce que je crois profondément. Les pauvres chrétiens là, qui croient que Dieu les regarde avec des gros yeux sévères, là, les bras croisés, là, puis qui croient devoir prendre toute leur sanctification sur leurs propres épaules, là, sont souvent très misérables, puis avec raison. Je suis persuadé qu'il y a des centaines de personnes qui ont quitté l'Église pour cette raison-là. Juste dans notre génération, là, je suis sûr que beaucoup de gens ont quitté l'Église par cette fausse conception de Dieu-là, puis de la sanctification. Ils se sont découragés, là. Bon, premièrement, on va parler de l'auteur de la sainteté, qui est Dieu. En 2 Corinthiens 3:18, Paul a écrit, « Nous tous, dont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, selon une certaine traduction. » Alors, on voit au départ que c'est Dieu qui nous transforme. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit même de la sainteté de Dieu, qui nous habite maintenant. Éphésiens 4:16 dit, « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. » Bon, c'est quoi qui fait grandir nos enfants? Nos efforts? Non, c'est simplement la nature. Notre rôle, c'est de les assister, en leur donnant de la nourriture, puis en faisant de notre mieux pour qu'ils ne poussent pas trop gros. Bon, c'est pareil pour la croissance spirituelle des croyants. La semence de Dieu à l'intérieur des croyants, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la nature même de Dieu en eux, puis qui travaille à reproduire son caractère. Les différents ministères donnés à l'Église sont juste là pour assister la nature, de la même façon qu'une sage-femme est là pour assister une mère à enfanter. C'est pas elle qui met l'enfant au monde, elle est là pour assister. Bon, le psaume 87 dit quelque part, « Toutes mes sources sont en toi. » Il est bien important qu'on sache d'où on tire notre pouvoir de mener une vie sainte. Par exemple, quand la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres, il est toujours sous-entendu que cet amour-là trouve d'abord son origine en Dieu, qui travaille à nous le communiquer par le Saint-Esprit qui habite en nous autres. Le croyant n'a pas d'amour en lui-même, car l'amour est de Dieu, nous dit 1 Jean 4:7. D'autres traductions ont rendu « l'amour vient de Dieu ». Une autre traduction encore « l'amour émerge de Dieu ». Une autre traduction « l'amour trouve son origine en Dieu ». Dieu ne nous demande pas de nous forcer pour aimer, mais seulement de permettre à Jésus-Christ d'aimer les gens à travers nous autres. Comprenez-vous la différence? C'est bien important. Il ne s'agit pas d'être saint en nous-mêmes, ce qui est impossible, mais de laisser la sainteté de Dieu émerger nous autres. Un jour, un certain chrétien avait de la difficulté à aimer une autre personne, puis il priait, « Oh Seigneur, je ne suis pas capable de l'aimer. Alors aime-le à travers moi. » Je trouvais ça bon quand j'ai entendu ça. C'est exactement l'attitude qu'il faut prendre si on veut arriver à quelque chose dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas une montagne qu'on a à escalader, mais une vallée qu'on a à descendre. En d'autres mots, ce n'est pas tellement de la discipline que ça prend, mais du renoncement à nous-mêmes. Il faut d'abord reconnaître humblement l'auteur de la sainteté, puis se rappeler que l'Éternel est la force de son peuple, nous dit Psaume 28, 8. 1 Samuel 20, 14 nous dit, « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. » On voit ici encore que la vertu de la bonté que le croyant exerce est celle de Dieu même. Galates 5, 22 nous dit aussi, « Car le fruit de l'Esprit, hein, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. » L'amour en question, c'est l'amour du Saint-Esprit. La paix, ben, c'est la paix du Saint-Esprit. La joie, c'est la joie du Saint-Esprit, etc. Toute vertu ou toute sainteté provient de l'Esprit-Saint. Dieu ne nous demande pas de produire les fruits, mais simplement de les porter. C'est pas pareil, ça. Toute capacité authentiquement spirituelle trouve son origine en Dieu, que ce soit des dons ou des vertus. Toute sainteté vient de Dieu. Il est écrit, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Ésaïe 26, 12. On voit le principe ici, là, qui commence à se dessiner lentement à travers tous ces versets-là. L'apôtre Pierre enseigne également que, en 1 Pierre 1, 15 et 16, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Ce texte-là nous dit implicitement que la sainteté du croyant plonge ses racines dans la sainteté même de Dieu. La sainteté du croyant est bel et bien fondée en celle de Dieu. Ce que Pierre commande en fait aux croyants ici, c'est d'être coopératif avec la sainteté de Dieu qui les habite déjà. En Hébreu 12, 10, on nous atteste encore la même chose en disant « Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté ». Il est écrit en Romains 5, 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » L'expression est intéressante ici. Le salut puis la sanctification sont si étroitement liés dans les Écritures que les deux choses sont souvent confondues en une seule chose. Le mot grec traduit par le mot « vie » c'est Zoé, selon le Vines, à la page 676, je cite, « Le mot est utilisé dans le Nouveau Testament comme étant le principe de la vie. La vie comme Dieu la possède. Il y a une indiscutable implication morale rattachée à cette expression, telle la sainteté et la justice. Cette vie divine fait un incessant travail dans la nôtre. » Fin de citation. Autrement dit, être sauvé par sa vie, comme nous dit notre verset, ça signifie plus précisément être changé ou transformé par la vie de Christ qui est en nous autres. Alors la sanctification, ce n'est pas une série de push-ups qu'il faut faire. C'est un renoncement à nous-mêmes, puis c'est une coopération. Il s'agit de laisser Jésus-Christ émerger de nous autres. Ça prend de la soumission pour faire ça. Ça ne prend pas vraiment des capacités de volonté, là. Alors ce n'est pas ça du tout. On sait que c'est Dieu qui sauve. Puis même s'il est évident qu'il a fallu qu'on coopère à quelque part, évidemment, le salut est premièrement une œuvre de Dieu. On sait ça, la Bible est très claire là-dessus. Puis, c'est la même chose pour la sanctification, vous savez, il n'y a aucune différence. La sanctification fait partie intégrante du salut. Alors si notre justification s'est opérée sur le principe de la grâce, notre sanctification va obligatoirement l'être aussi, ou devrait l'être. Si on comprend le principe et qu'on coopère avec lui. L'apôtre Paul a écrit en 2 Corinthiens 13, 13, « Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le Saint-Esprit fait l'incessant ministère de nous communiquer ou d'essayer de nous communiquer sa sainteté. C'est son travail. Le mot grec traduit ici par communication veut dire mettre quelque chose en commun, une association, une participation, une communion. Autrement dit, avoir part à ce que le Saint-Esprit possède. Ainsi, l'origine d'une authentique sainteté dérive de ce que le Saint-Esprit communique, ou plus précisément, de ce que le croyant tire lui-même de sa communion avec lui. La sanctification tout entière est basée sur le principe de la communication du Saint-Esprit. Quand Paul nous dit de marcher selon l'Esprit, en Galates 5:16, il veut dire d'obéir à l'influence que le Saint-Esprit exerce déjà sur nous autres. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prier pour faire descendre du ciel. Il n'y a pas longtemps, lors d'une réunion à l'église, j'ai entendu quelqu'un prier, « Seigneur, donne-nous l'amour pour qu'on puisse aimer les autres. » Mais le Seigneur, on est là dans une attente passive, là, que Dieu fasse quelque chose. En réalité, il a déjà tout fait en Jésus-Christ. Il s'agit seulement de coopérer avec cette grâce-là qui a fait habiter nous autres. Il faut y croire à ça. Sinon, tout notre christianisme s'écroule. Si on ne croit pas qu'on a été intégré en Jésus-Christ, lorsqu'on a eu foi en lui, tout s'écroule. Notre foi est vaine. Rien ne va sortir d'une croyance aussi vague, aussi vaine, puis aussi passive. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'on a été incorporé en lui et qu'on participe à sa vie. Là, ça va donner quelque chose. Parce qu'avant ce moment-là, il n'y a rien à faire. Notre foi est vaine puisqu'on ne croit pas l'essentiel du christianisme qui est notre incorporation en Jésus-Christ. Alors, je répète la dernière phrase. Quand Paul nous dit de marcher selon l'Esprit, en Galates 5:16, il veut dire d'obéir à l'influence que le Saint-Esprit exerce déjà sur nous autres, en nous autres. Jésus a dit, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4:14. La traduction d'Arby a rendu ça, « L'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine jaillissante en vie éternelle. » Encore le mot « vie » ici, là, qu'on a vu tantôt. Qui est le principe de la vie de Dieu, le moteur. Cette vie-là fait un travail en nous. Bon, l'image ici que Jésus a employée est celle d'une source dont l'origine est cachée dans les entrailles de la terre, puis qui finit par arriver à la surface pour devenir une source jaillissante. Cette analogie-là est destinée à figurer la croissance spirituelle du croyant. Comme une source part des entrailles de la terre, puis vient jaillir en surface, de même, la vie de Christ commence par être reçue dans le cœur, puis s'étend jusqu'à dans notre caractère, nous rendant graduellement et manifestement davantage semblables à Jésus-Christ, selon, bien entendu, notre degré de coopération avec elle. L'apôtre Paul parle à beaucoup d'endroits de cet important principe-là. Par exemple, en Colossiens 3:4, il dit « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Il est ici question de la vie même de Christ que le croyant est appelé à refléter. Le croyant doit apprendre à puiser dans cette vie-là, de la même façon que les racines d'un arbre sont cachées dans la terre, puis que l'arbre tire par ses racines la sève qu'il fait vivre puis porter du fruit, le croyant doit tirer de l'esprit la grâce de vivre comme lui. La partie invisible du croyant, c'est donc la partie la plus importante. Christ est lui-même l'auteur de la vie qu'on est appelé à vivre. Paul atteste encore la même vérité en disant, en Éphésiens 6:10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » D'autres traductions ont rendu ça, « Trouvez votre force à l'intérieur de votre union avec le Seigneur. » Ou une autre traduction, la traduction Knox, a traduit « Tirez votre force du Seigneur. » Ce qui est excessivement important. Les chrétiens qui prennent toute leur sanctification sur leurs propres épaules se découragent et ont l'impression de porter 1000 livres. Et c'est à peu près ça. La sanctification, c'est un travail beaucoup trop lourd pour que l'homme le prenne seul. C'est comme le salut, c'est impossible de sauver tout seul. Sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Bon, ce que Paul veut dire ici, trouver notre façon, tirer notre force du Seigneur, c'est une autre façon de dire, au lieu d'essayer de produire la sainteté par vos propres forces, soyez sensibles à la grâce qui vous habite, puis soyez soumis à l'influence qu'elle veut avoir sur vous autres, 24 heures sur 24. En Romains 8, 11, Paul a écrit encore, d'une autre façon, la même vérité, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Paul parle de la résurrection spirituelle du chrétien. Depuis la chute, le corps physique de l'homme est devenu l'instrument du péché. Le corps du croyant est maintenant l'exécuteur des ordres qu'il reçoit de sa chair ou de l'Esprit de Christ. Ce que Paul veut dire ici, c'est que sous l'influence bénéfique de l'Esprit, s'il y a un développement normal, bien entendu, le corps du croyant va cesser graduellement d'être l'instrument de la chair, puis deviendra un instrument d'action juste et sainte pour Dieu. C'est ça qu'il veut dire ici. On voit encore que c'est l'Esprit qui sanctifie le croyant. L'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit Saint parce que c'est un esprit sanctifiant. Il fait un travail de sanctification, nous autres. On ne veut pas juste décrire un attribut de l'Esprit. On veut vraiment, en disant Esprit Saint, l'Écriture veut vraiment nous transmettre l'idée que l'Esprit Saint fait, l'Esprit fait un travail sanctifiant, un ministère sanctifiant. Cet Esprit-là n'est pas venu habiter en nous autres parce qu'il ne savait pas où aller ailleurs. Il est venu à nous autres pour nous communiquer sa propre sainteté. Puis Dieu demande qu'on soit ouvert à ça, qu'on participe à ça, qu'on soit coopératif à ça. Matthieu 14, 28 à 31 nous dit, « Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre n'a pas vraiment marché sur l'eau. Il y avait quelque chose entre les semelles de ses chaussures et la surface de l'eau qui l'empêchait d'enfoncer. Cette chose, c'était la grâce de Dieu. Pierre a probablement pas eu peur du vent en tant que tel, mais des vagues que le vent produisait. Probablement. S'il y avait une tempête et que le vent était fort, comme ça nous dit, les vagues pouvaient très facilement lui monter jusqu'aux genoux, puis peut-être même jusqu'à la ceinture par moment. Quand une de ces vagues-là passait sur lui, il devait peut-être se demander s'il était encore en train de flotter ou s'il était en train d'enfoncer, comprenez-vous? C'est peut-être pour ça qu'il a commencé à douter, là. Cet événement-là n'a pas été consigné inutilement dans l'Écriture, mais il l'a été pour notre instruction. C'est pas que Dieu veut nous apprendre à marcher sur l'eau, littéralement, mais il veut nous montrer tout ce que la confiance en Dieu peut accomplir. Aujourd'hui, Dieu nous appelle encore souvent à marcher sur les eaux, savez-vous? Il le fait à chaque fois qu'on ouvre le Nouveau Testament, puis à chaque fois qu'à travers certaines circonstances, Dieu nous demande de faire des choses qui sont au-dessus de nos propres forces humainement. Ce passage-là nous fournit un très bon exemple du principe de la vie chrétienne. C'est une vie qui commence par un appel à vivre une vie virtuellement impossible à vivre par nous-mêmes. J'ai souvent eu dans ma vie l'impression que la sanctification était pratiquement aussi difficile que de marcher sur les eaux, puis c'est pas peu dire. Ça prouve seulement encore une fois que la vie chrétienne se vit uniquement par grâce, puis pas autrement. On doit apprendre à vivre cette vie chrétienne-là sur le même principe qu'on a été sauvé, c'est-à-dire par la foi, dans le secours de la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit que la foi, c'était la prise qui nous connecte à la grâce. La foi, c'est la porte qui nous permet d'avoir accès à cette grâce-là. Selon qui est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, Éphésiens 2:8. Il n'est pas faux de dire que c'est également par grâce qu'on est sanctifié par le moyen de la foi. Parce que ça va ensemble. Comme l'homme est incapable de sauver sans la grâce, il est même incapable de changer sans la grâce. Plusieurs de nous autres l'ont appris à la dure, comme on dit, cette leçon-là. Le fait que Pierre ait enfoncé après avoir fait quelques pas, là, fait énormément penser au premier pas d'un enfant lorsqu'il apprend à marcher. Pierre a, en quelque sorte, fait ses premiers pas dans la foi. On doit, nous autres aussi, comme des petits-enfants, apprendre à marcher par la foi sur le plancher de la grâce, avant de pouvoir faire l'expérience de la vie chrétienne victorieuse. C'est un long apprentissage. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de raccourci dans la sanctification. Il y en a qui ont essayé. Ils sont retournés un peu déçus. Il faut commencer par savoir et croire qu'on a, en Jésus-Christ, la grâce de marcher selon la volonté de Dieu. Ça, c'est coulé dans le ciment. C'est un fait. On doit accepter ça. C'est la vérité biblique qui est très claire. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Lorsqu'on ne sent pas la grâce, ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Soit on ne croit pas suffisamment en elle, ou on n'y est peut-être pas suffisamment réceptif. C'est plutôt ça le problème. La grâce est là, dans le cœur de tout croyant. Il n'existe pas vraiment de raison de ne pas posséder la grâce dont on a besoin. Tout est une question de connaissance, puis de foi, puis d'obéissance à cette grâce-là. Tout comme l'apôtre Pierre a marché sur les eaux, la grâce peut nous permettre de vivre une vie sainte, même dans des conditions très difficiles. Il faut savoir aussi que sans un authentique renoncement au péché, hein, la grâce est impuissante. La grâce n'est pas là. La grâce de Dieu ne forcera jamais la volonté secrète du croyant à commettre le péché. Tous les croyants ont accès à cette grâce-là en Jésus-Christ, mais il est tout à fait inutile d'espérer avoir la victoire sur quelque chose si dans notre cœur le renoncement au péché n'est pas complet. Et pour sérieux, la grâce assiste notre volonté, elle ne la remplace pas. On vient de voir le rôle de Dieu dans la sanctification, ce qui est une bonne chose de fait. Parlons maintenant d'une autre, notre rôle, qui est aussi très important. En Colossiens 2,11, Paul nous dit que les croyants ont été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Il s'agit de la circoncision de Christ, ajoute-t-il. Cette circoncision spirituelle-là est la figure de notre libération du péché, ou du pouvoir du péché, plus précisément. Puis il est clairement dit qu'elle a été l'œuvre de Christ. Alors le croyant peut se reposer sur Dieu en ce qui concerne sa sanctification. En Christ, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété, nous dit Pierre. Il nous demande simplement de s'appuyer là-dessus avec confiance, puis d'apprendre à travailler avec la grâce qui nous habite. Je connais quelqu'un qui a dit, si Dieu veut me changer, ben, il me changera. Moi, je n'ai pas le moindre effort à faire, puis je n'ai pas l'intention d'en faire non plus. Bon, on peut exploiter pas mal de choses, pas mal de monde dans la vie, mais on ne peut pas exploiter la grâce de Dieu. C'est Dieu qui sanctifie, d'accord. Mais on a aussi notre responsabilité là-dedans. Jésus a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Jean 15, 4. On doit coopérer avec l'œuvre de Dieu en aspirant à notre sanctification, en résistant à la tentation, puis en fuyant les lieux et les gens qui peuvent nous entraîner dans le péché. On doit aussi chercher à demeurer rempli du Saint-Esprit, puis apprendre à utiliser les différents moyens de grâce que Dieu a mis à notre disposition. En Jean 1,12, c'est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il, le Verbe, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Bon, devenir enfant de Dieu, ça veut dire que notre caractère devient semblable à celui de Dieu. On voit premièrement que c'est Jésus lui-même qui nous donne ce pouvoir-là. Mais en disant qu'il nous donne le pouvoir, il veut dire aussi que Dieu ne fera pas violence à notre volonté. Tu peux devenir plus saint si tu le désires vraiment. Ou tu peux ne pas le devenir si tu ne le veux pas vraiment non plus. On ne peut pas être saint sans la participation de Dieu, c'est évident, mais on ne le deviendra pas non plus sans participation de notre part. C'est un travail d'équipe, la sanctification. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il a reçu en Jésus-Christ la grâce d'amener une vie sainte, qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt que c'est dur un peu, il baisse les bras et il se dit « ça ne sert à rien, je ne suis pas capable de toute façon ». Il laisse sa chair le conduire par le bout du nez, pratiquement comme quand il était pas sauvé. Le malheur dans ma vie, puis le malheur dans la vie de tous les croyants, c'est qu'on recherche toujours la voie de la facilité aussi. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché », nous dit l'Épître aux Hébreux. Oui, on veut obéir à Dieu, à condition que ça ne demande pas de sacrifice. Bon, on serait capable d'être beaucoup plus saint qu'on est, les amis. C'est juste qu'on ne veut pas que ça fasse mal à nulle part. Être saint, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de prendre la décision d'arrêter d'écouter notre chair, puis d'utiliser les moyens de grâce dont on a parlé tantôt. Ça fait mal parce que notre chair se débat comme un diable pour conserver sa propre vie. Puis en faisant ça, elle empêche celle de l'esprit de sortir. Mais la responsabilité, c'est nous autres qu'on a le gouvernail dans les mains, là. En Romains 8, 13, Paul a écrit, « Si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » On voit ici les deux responsabilités mises dans le même verset, c'est très intéressant. L'esprit produit la vie, mais nous autres, on doit la laisser passer. Comprenez-vous? La sanctification, c'est une œuvre de coopération entre le croyant et Dieu, je ne le dirai jamais assez. Dans son commentaire sur l'Épître aux Hébreux, Frédéric Godet a écrit « La vie du Saint-Esprit ne se réalise pas chez le fidèle sans son concours. Il faut de la part de l'homme une docilité énergique et persévérante à se tenir sous l'action de l'Esprit et à détruire par ce moyen l'activité de la chair. » car l'esprit tend à l'immolation de la chair. Et celle-ci n'a pas lieu sans souffrance. C'est une mort. Fin de citation. Ayant donc en nous autres l'esprit de la grâce, il nous appartient maintenant de coopérer avec lui, en faisant tous nos efforts pour lui obéir, au lieu d'obéir à notre chair. Il est là le cœur du problème. C'est pas que le péché est collé après nous autres. C'est peut-être nous autres qui avons mis de la colle après un petit peu. On l'aime notre péché, vrai pas vrai. Soyons sincères, soyons honnêtes. Là. La chair, notre chair aime ses péchés. La difficulté se trouve à ce niveau-là, de renoncer à notre péché. C'est pas la victoire sur le péché, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème du tout depuis qu'on est croyant. On a tous la victoire sur le péché, puis on a la victoire sur tous les péchés. Le problème, il est là. Le renoncement du cœur. C'est aussi simple que ça. Il faut premièrement que le croyant soit devenu conscient de la grâce dans sa vie. Ensuite, tout est une question d'obéissance ou de désobéissance. En Tite 2, 11, 12, Paul a écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » On voit la sanctification qui tourne autour du renoncement. Ça, c'est un texte qui est tellement important dans l'Écriture. C'est un texte de base ça, pour enseigner la sanctification. Le renoncement qui est inspiré par la grâce. Juste avant ce texte-là, Paul fait un paquet d'exhortations à l'Église. Le contexte démontre assez clairement que Paul pense aux croyants lorsqu'il parle de cette grâce-là. Les hommes en question font forcément référence aux croyants parce que la grâce n'a pas été une source de salut pour tous les hommes, mais uniquement de ceux qui l'ont acceptée puis qui sont devenus croyants. Le salut en question là, fait référence ici à la sanctification, encore une fois, puis à la transformation progressive du croyant. Alors, je pense qu'on ne rendrait pas une injustice à ce verset-là, à Tite 2.11, en le lisant comme suit. « Car la grâce de Dieu, source de transformation pour tous les croyants, nous enseigne à renoncer à l'impiété. » En d'autres termes, Paul est en train de dire que toute conduite vertueuse est en réalité le fruit de cette grâce résidente-là à l'intérieur de chaque croyant. Le mot grec pour grâce, c'est « charis », comme on le sait, qui signifie « une influence divine sur le cœur et qui se reflète dans la vie ». Selon le Dr. Vine. Je trouve que c'est une très belle définition du mot grâce. Une influence divine sur le cœur et qui se reflète dans la vie. Le but de toutes les exhortations du Nouveau Testament, c'est de nous rappeler de mettre en pratique les choses qui se trouvent déjà dans notre cœur. Qu'est-ce que la réprimande, sinon un reproche pour ne pas avoir pour pas être assez obéissant à cette grâce-là, à qu'est-ce qu'on sait déjà très bien dans le fond de nous autres. Hein? C'est pour ça que Paul débute le chapitre 3 par ces paroles-là, « Rappelle-leur », etc., etc. Il donne différentes exhortations. Toutes les exhortations données dans ce passage-là ne sont en réalité que des rappels à propos de ce que la grâce de Dieu produisait déjà au cœur des croyants, qui leur avait déjà enseigné des choses qu'ils savaient fort bien, mais que par négligence, par paresse, parce qu'on s'écoute un peu trop, qu'on néglige. Ce n'est pas des choses qu'on n'a pas, ou qu'il faut faire des efforts pour recevoir, pour produire. L'Écriture nous rappelle sans cesse de coopérer avec la grâce sainte de Dieu. On ne nous demande pas d'acquérir quoi que ce soit. Les exhortations comme « aimez-vous, soyez patients, soyez doux, soyez humbles, etc. » de même tous les autres commandements de l'Écriture, sont seulement des rappels à marcher d'une manière digne de ce qu'on est déjà dans le fond. Le Christ, on n'a pas à le construire en dedans de nous autres, on a juste à le déterrer parce qu'il est déjà là. La sanctification, c'est une question d'obéissance à la grâce. Puis ça, c'est le cœur de mon message, cela. Si vous retenez juste ça, vous avez déjà retenu pas mal. La sanctification, c'est une question d'obéissance à la grâce. Un jour que j'enseignais ça quelque part, il y a un chrétien me coupe la parole, puis il me dit « Moi, je ne suis pas capable d'obéir à la parole de Dieu. » Bon, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, dit l'Écriture. Oui, on est capable, c'est juste qu'on est paresseux, admettons le don. Puisqu'on écoute trop la volonté de notre chair, il est là le problème, le vrai problème. C'est la paresse de la chair qui nous montre les commandements de Dieu comme quelque chose de très difficile à accomplir. Surtout en ce qui concerne le croyant, pas capable, il est mort, comme on dit. Puis c'est vrai, Paul nous dit que la chair a été crucifiée avec Christ. Puis on est mort avec lui, afin qu'on puisse justement être capable de mener une vie sainte. Le plan de rédemption de Dieu n'est pas déficient, les amis. Quand le péché persiste dans nos vies, c'est toujours notre faute, c'est jamais celle de Jésus-Christ. Qu'on se le tienne pour dit, ça. Deutéronome 30, 10-14 nous dit, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Si les gens l'avaient, la capacité sous l'Ancienne Alliance, imaginez sous la Nouvelle, maintenant qu'on a reçu l'Esprit-Saint. Je me souviens avoir entendu un évangéliste enseigner que les non-croyants, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, étaient esclaves du péché, dans le sens qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de pécher. C'est pas vrai, ça. Si c'était vrai, alors pourquoi Dieu a dit ceci à Caïn, en Genèse 4-7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Pourtant, Caïn n'était pas né de nouveau. Puis tous les gens que Dieu appelait à la repentance sous l'Ancien Testament n'étaient pas nés de nouveau non plus. Ce serait cruel de la part de Dieu de demander à des gens de changer de conduite s'ils n'en avaient pas la capacité. Personne, écoutez-moi bien, personne est esclave du péché, même pas le non-croyant. Alors enlevons-nous de la tête tout de suite ce mensonge du diable-là qui nous dit qu'on est esclave de notre péché. Il y a même des croyants qui croient ça. En Jean 8, 34, Jésus a dit, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Bon, Jésus ne parle pas d'un esclavage forcé, mais d'un serviteur volontaire. Parce qu'on a le verbe « se livrer » ici. Le verbe « se livrer » ne laisse absolument aucun doute. En d'autres mots, Jésus voulait dire, « Si vous pratiquez le péché, c'est parce que vous désirez en être les serviteurs, dans le fond. » Personne n'est obligé de pécher, les amis. La traduction d'Arby de Romains 6, 16 a traduit ainsi. « Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave? » Bon, Paul veut dire que personne ne commet le péché sans acquiescer lui-même à la tentation à un moment ou à un autre. Soyons honnêtes, là. Okay? Saint Augustin disait « La pureté de l'âme ne se perd pas sans consentement. » Je n'ai rien qu'amen à dire ça. Personne n'a jamais péché contre sa propre volonté. On n'est jamais vraiment esclave du péché. On peut subir des grandes pressions. Je n'ai rien dit. Je dis pas le contraire. On peut subir des grandes pressions de notre propre volonté charnelle, puis de notre entourage. Mais on n'est jamais forcé de pécher, par exemple. Saint Augustin a encore dit, « Avant que Dieu puisse nous délivrer, nous devons d'abord cesser de nous séduire nous-mêmes. » Si nos convoitises semblent avoir tant de puissance sur nous autres quelquefois, c'est souvent parce qu'on le leur en donne. Le chrétien a maintenant deux volontés en lui. Plusieurs d'entre nous autres, on s'en est aperçu de ça. Puis il doit choisir à chaque instant laquelle il va obéir. C'est ça le cœur du problème. On aime ça être tenté des fois, pas vrai? De dorloter notre petit péché, notre petite convoitise dans notre cœur. Mais celui qui se laisse entraîner, qui se laisse traîner les pieds, excusez, dans un torrent, finit par se faire emporter par le courant, dit le proverbe. Le danger, c'est qu'en jouant avec la tentation, souvent on faiblit, puis on finit par s'y livrer. C'est pas parce qu'on est esclave du péché, c'est parce qu'on a bien voulu tomber dedans. C'est pour ça que Pierre disait de s'abstenir des convoitises charnelles. Pas juste de s'abstenir du péché en tant que tel, mais même des convoitises charnelles, c'est-à-dire de marcher loin des tentations. Va pas quelque part où tes convoitises vont être tentées, vont être aguichées. Bon, si Dieu nous demandait des choses qu'on n'est pas capable d'accomplir, il serait pas mieux que Pharaon qui demandait aux Hébreux de faire des briques puis qui leur donnait pas de paille pour les faire. Mais on sait que Dieu n'est pas comme ça. On a la grâce de porter les fruits de l'Esprit, puis d'arrêter de pécher, soyez-en persuadés. Pécher, c'est désobéir à la grâce. Si vous voulez ma définition, là, c'est ça. La sanctification n'est pas un problème de capacité, mais une question d'obéissance. Puis ce que je dis là, ça devrait nous réjouir au lieu de nous débobiner, parce que moi quand j'ai réalisé que j'avais en Jésus-Christ la victoire sur le péché, ça a été une libération pour moi, je me suis senti pousser des ailes. Bon, si on est triste en réalisant que la responsabilité nous incombe de dire non au péché, c'est juste la chair qui voit qu'elle ne peut plus se cacher, là, puis qu'elle va être obligée de renoncer à son péché. Faites-vous-en pas avec ça. C'est des réactions plus ou moins normales. Notre tristesse est peut-être une tristesse selon Dieu, là, qui travaille pour nous amener à la repentance. En Philippiens 2, 12, 13, Paul a écrit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » D'une part, on nous dit de travailler à notre sanctification, puis de l'autre, on nous dit que c'est Dieu qui produit. Bon, il n'y a pas contradiction, mais un simple partage de responsabilité. Produire la sainteté en nous, c'est, ça a été la responsabilité de Dieu. La nôtre, c'est de travailler à la laisser sortir, puis à ne pas la garder captive en nous, comme les Juifs le faisaient. On est appelé à coopérer avec Dieu. La sanctification, c'est un travail de coopération entre le croyant puis l'Esprit Saint qui est en lui. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que le Saint-Esprit travaille souvent, d'une façon souveraine en chacun de nous autres. C'est vrai, ça. Il accomplit des tas de choses sans notre participation consciente. Mais il y a peut-être quand même une participation inconsciente, par exemple. Mais de façon générale, là, d'habitude, il faut participer beaucoup plus consciemment. Puis on doit faire preuve de beaucoup de volonté si on veut grandir. Dans ce sens-là. Dieu nous demande de participer, nous-mêmes, à notre sanctification, sinon on ne fera pas beaucoup de progrès. Il y a un détail qu'il faut savoir. C'est le Seigneur qui est maître de la sanctification. Il ne nous appartient même pas de décider ce qui doit être sanctifié en premier dans nos vies, saviez-vous ça? Le choix des priorités appartient à Dieu. Si on s'entête à vouloir réaliser nos objectifs, des fois, ben, on pourrait être déçu en découvrant que Dieu ne nous assiste pas comme on l'aurait espéré. Par contre, Dieu peut prendre l'initiative de changer des choses, nous parler à propos de certaines choses qu'on considère insignifiantes, hein, qui ne sont pas pour Dieu, puis des choses qu'on laisse traîner depuis plusieurs années peut-être dans notre vie, mais que Dieu trouve important, lui. Alors la prière joue un rôle de première importance dans ce domaine-là parce qu'elle nous aide à découvrir à quel endroit Dieu désire travailler en premier dans notre vie, puis d'être capable de mieux coopérer avec lui. Là, on est arrivé à un principe bien important que j'appelle le principe de la noyade. L'apôtre Paul a écrit en Romains 8, 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, qui est en ma chair, autrement dit. » Si je peux me permettre d'ajouter ça, parce que la loi du péché et de la mort, ça se trouve dans notre chair. La loi de l'esprit de vie, ça se trouve dans l'esprit maintenant du croyant. On a les deux. Là. Une loi, là, c'est une force qui obéit à un principe. OK? Jusque-là, comme la loi de la gravité. En d'autres mots, Paul dit « la force » qui me pousse à la sainteté, est plus grande que la force qui me pousse à pécher. C'est ça que le verset veut dire ici. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Très peu de temps après sa conversion, le croyant réalise deux choses. Premièrement, que son cœur possède des nouveaux désirs, des désirs de sainteté. C'est ça que Paul appelle la loi de l'esprit. Deuxièmement, il réalise aussi que sa chair a encore des désirs de péché. C'est ce qu'il appelle la loi du péché. Ce combat-là, il est normal. Tout le long de notre vie, c'est normal. Ça va être normal, ça. On ne peut pas empêcher notre chair d'aimer le péché. Ça ne sert à rien de lutter contre ça. On ne peut pas changer ça. Il n'y a rien que dans sa tombe que la chair éprouvera plus de désir. Gloire à Dieu pour le jour de notre mort. Gloire à Dieu pour la vieillesse qui affaiblit les capacités de la chair à pécher puis qui nous aide à vivre plus saintement pour Dieu. Alors, ce qui est laid dans le monde peut être très beau dans le royaume de Dieu. Heureusement, Dieu a prévu des moyens de grâce qui peuvent rendre notre combat là, moins pénible entre les deux. La vie chrétienne ne consiste pas uniquement à faire des efforts pour empêcher notre chair de pécher, mais premièrement de faire tous nos efforts pour être remplis du Saint-Esprit. Ce qui fait que l'Esprit de grâce va engloutir les tendances de la chair. C'est ce que j'appelle le principe de la noyade. Là. Plus on va être rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit, plus le désir charnel... Plus nos désirs charnels vont être noyés dans l'abondance de la grâce qui va nous dispenser. Comprenez-vous le principe? En Éphésiens 5, 18, Paul a dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Si on comprend bien là, ce que Paul dit ici, le meilleur moyen de ne pas s'enivrer de vin, c'est pas seulement de lutter contre la tentation de boire, mais plutôt d'être rempli du Saint-Esprit, puis lui, il va lutter à notre place. Thomas Benton Brooks a dit, comme la chaleur est opposée au froid et la lumière aux ténèbres, ainsi la grâce est opposée au péché. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Alors, plus on va être rempli de son esprit, moins la tentation va avoir de pouvoir sur nous autres aussi. C'est pas logique, ça. En Romains 6, 4, Paul a écrit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Ici encore, le principe de la sanctification par la noyade est enseigné. Quand Jésus a été crucifié, son corps a été réduit à l'inactivité. On peut de même espérer, avec le temps, que la grâce de Dieu va prendre une telle ampleur dans certains secteurs de notre vie qu'elle va faire littéralement office de clou, empêchant la chair d'accomplir sa volonté aussi. Si le croyant coopère bien, là, la tempérance de Christ, par exemple, va finir par paralyser l'intempérance naturelle de la chair. La douceur de Christ va engloutir la tendance colérique de la chair. La paix de Christ va engloutir notre inquiétude, etc., etc., etc. Abraham Fuller a dit, « Le péché n'est pas vaincu par une opposition directe, mais en cultivant la vertu qui lui est opposée. » Ça, c'est une parole très intelligente. Le croyant est né de nouveau, c'est-à-dire qu'il est spirituellement ressuscité avec Christ. La personne qui vient de naître de nouveau vit automatiquement des changements intérieurs. La sanctification est une lente résurrection. La chair est inchangeable. Il y a juste l'Esprit Saint qui puisse, par son influence sainte, engloutir les tendances charnelles, puis nous permettre d'être plus forts que la chair. Comprenez-vous le principe? La présence de la grâce tend à désactiver les convoitises de la chair. Charles Spurgeon a dit, « Le péché est tout puissant tant que la grâce toute puissante ne le détrône. » Le croyant là, qui vit près de Dieu découvre bientôt que c'est plus tellement lui qui abandonne le péché, mais c'est plutôt le péché qui l'abandonne. Gloire à Dieu pour ça. En 2 Corinthiens 5,4, Paul a écrit, « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » On a encore le principe ici de la noyade. D'autres traductions ont rendu le verbe « engloutir » par « engouffrer »,« avaler » par la vie. La traduction Conybeare a traduit ça. Une autre traduction a dit « être absorbé par la vie ». À leur nouvelle naissance, les croyants ont été baptisés dans le Saint-Esprit. On ne peut pas être en Christ sans être dans l'Esprit en même temps. Les termes « engloutir » et « baptiser » transmettent exactement la même pensée. On voit ici le but pratique pour lequel le Saint-Esprit a été donné aux croyants, qui est celui de combattre la tentation avec nous autres, puis d'engloutir ce qui est mortel, ce qui est charnel. L'engloutissement, c'est le principe le plus fondamental de la sanctification. C'est ça la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est si important d'avoir une relation étroite avec l'Esprit de Dieu. Quand Pierre, en Actes chapitre 8, est allé prier pour les Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit après leur conversion, je pense qu'il a fait ça parce qu'il réalisait que ces gens-là avaient besoin de grâce, puis tout de suite. Quand on devient croyant, on est automatiquement baptisé dans le Saint-Esprit, en théorie. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est comme la sanctification. Notre position en Christ nous confère ça immédiatement, mais la manifestation visible est loin d'être à son plein potentiel encore. On peut vivre un paquet d'expériences avec le Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été baptisé dedans au début. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, c'est à la conversion que ça se passe, ça. On est parfaitement saint en Christ, mais on n'est pas parfaitement saint en pratique. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. En Christ, on a été baptisé dans le Saint-Esprit, mais on a besoin de faire des efforts pour s'approcher de lui puis de recevoir des choses de lui dans le domaine pratique pour que ça puisse vraiment nous servir à quelque chose. Certaines personnes ont de façon très évidente fait immédiatement une expérience concrète avec le Saint-Esprit dès leur conversion. Pour d'autres, il ne s'est rien passé du tout, il ne semble pas, en tout cas. C'est pas apparent. Ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont cru, ils ont été baptisés, comme les Samaritains, en Acte 8, ils ont vraiment pris une décision pour le Seigneur, qui est vrai, qui est authentique, mais ils n'ont fait aucune rencontre significative avec l'Esprit de Dieu dans le domaine pratique. Ça se peut, ça aussi. Quand tu leur dis que tu as senti la présence de Dieu, ils te regardent comme si tu manquais une roulette quelque part, puis ils ne comprennent pas du tout de quoi tu parles. « Ce que je ne connais pas n'existe pas, » dit l'ignorant. Maintenant, si ces croyants-là ont vraiment soif de connaître le Seigneur toujours davantage, puis de s'approcher de lui le plus possible, ils vont graduellement entrer dans le monde spirituel, puis ils vont apprendre à connaître le Saint-Esprit, puis à jouir de ses bénédictions, puis de sa grâce, de façon très concrète. Mais c'est un cheminement qui peut prendre du temps. Puis je pense que c'est pour ça que l'apôtre Pierre est allé tout de suite prier pour les Samaritains, justement pour activer ou accélérer ce processus-là, puis leur faire connaître immédiatement quelque chose du Saint-Esprit, qui aurait peut-être pris des années à découvrir tout seul. Paul a fait la même chose avec les disciples qu'il a rencontrés en Acte 19. On dirait que les apôtres avaient un don spécial dans ce domaine-là. Ils avaient le don de mettre les croyants en contact avec l'Esprit de Dieu, puis de leur communiquer des dons spirituels, puis de leur faire vivre quelque chose avec le Saint-Esprit, de réel. C'est pas juste... Quand l'Esprit-Saint, quand la réception de l'Esprit-Saint, c'est juste un concept théologique, mais on va vous dire une affaire. On est loin d'être au bout de tout ce que Dieu veut nous montrer. On ne devrait pas se contenter de ça. Les apôtres ne sont plus là aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit habite tous les vrais croyants. Puis si on peut arriver à développer notre sensibilité à son égard, on risque de vivre certaines expériences bénissantes avec Dieu dans notre vie, qu'on n'aurait pas imaginé même. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont définitivement pas assez ouverts à ça. Puis quand je parle d'expérience avec le Saint-Esprit, là, je parle pas de ceux qui se roulent par terre et qui viennent tout croche. Okay? On fait bien d'être prudent et de se mettre en garde contre des expériences bizarroïdes là, que les gens vivent dans certains mouvements charismatiques. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême non plus, puis se fermer complètement là, à toute expérience bénissante avec Dieu, parce que c'est nous autres qui va y perdre quelque chose. Bon, l'Église, là, c'est pas un gros coffre-fort. On peut s'étirer le cou un petit peu pour voir ce qui se passe ailleurs, puis peut-être en tirer des bénédictions. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal à se sentir béni à travers notre vie de prière, les amis. Il y a des chrétiens qui ont tellement peur de leurs sentiments, qui refoulent tout ça dans la jambe gauche, comme on dit, puis qui se forcent littéralement pour jamais rien sentir, parce qu'ils pensent que c'est tellement charnel, des sentiments. Ça peut être tellement spirituel, vous savez, des sentiments aussi. Les sentiments bénissants de la présence de Dieu sont pourtant des très stimulants dans la vie chrétienne. L'homme possède des sentiments parce que Dieu en possède lui-même, puis qu'il a créé l'homme à son image. Les sentiments, c'est ce qui différencie l'homme de la machine, vous savez. Les sentiments sont naturels, puis utiles. Dieu s'en sert pour stimuler les croyants spirituellement. Bon, je concède bien que le diable s'en sert aussi, pour nous empêcher de faire un paquet de choses. Mais Dieu s'en sert aussi, pour stimuler le croyant spirituellement. On connaît tous David Brainerd, le fameux missionnaire chez les Indiens, là, vers les années 1700, qui a connu un grand réveil. Bon, dans son journal personnel, il a écrit « Comme j'étais en train de marcher, une gloire ineffable s'est ouverte à mon âme. Je me tenais là, étonné et dans l'admiration. Je savais que je n'avais jamais vu auparavant rien de comparable à cela en excellence et en beauté. Cela était complètement différent de toutes les conceptions que j'avais eues de Dieu et des choses divines. Je suis demeuré dans cet état de joie intérieure, de paix et d'étonnement jusqu'au soir. Je me sentais comme dans un autre monde. » Plus loin, il écrit encore. « Pendant que je regardais les éléments de la Sainte Seine, là, et que j'imaginais Jésus-Christ crucifié devant moi, mon âme fut remplie de lumière et d'amour, au point d'être pratiquement dans l'extase. » Jonathan Edwards. Je souligne en passant que David Brainerd, le mouvement pentecôtiste, n'existait pas dans ce temps-là, ni rien de semblable. C'était des croyants tout à fait ordinaires, très orthodoxes. Ça ne les empêchait pas de vivre des choses très, très positives aussi. Jonathan Edwards, on connaît aussi certainement ce grand évangéliste-là maintenant, qui est un autre grand homme de Dieu, a écrit lui aussi « J'allais marcher seul dans un endroit solitaire, dans les pâturages de mon père, pour contempler. Comme je marchais et que je regardais le ciel, il me venait un sens si doux de la glorieuse majesté et de la grâce de Dieu que j'ai peine à exprimer. Après cela, mon sens des choses divines s'est accru graduellement et est devenu de plus en plus réel. » On pourrait continuer à citer des exemples comme ça pendant toute une semaine, si j'avais le temps. Oui, il y a des sentiments. C'est pas nouveau, ces choses-là. Il y a tellement de grands hommes de Dieu qui vivaient des expériences stimulantes dans leurs sentiments, et qui ont servi de moteur dans leur vie, dans leur service pour Dieu aussi. Il y a des sentiments nuisibles, j'en conviens bien. J'en vis moi-même, comme tout le monde. Il y a des sentiments nuisibles qui viennent de la chair. Ceux-là, il faut les combattre, évidemment. Mais depuis qu'on est né de nouveau, on peut jouir des sentiments, des mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ aussi. Jésus, en Luc 10:21, a dit, Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit, on voit ça dans le texte, puis ça venait pas du diable, les amis. En Galates 5:22, l'apôtre Paul consigne les sentiments de paix et de joie parmi les fruits de l'Esprit. Éprouver des sentiments de bénédiction, ben ça devient une aide extraordinaire pour la sanctification, si on comprend bien, là. Les sentiments, la présence de Dieu nous éloigne automatiquement du péché. Ça a pour effet de nous faire aimer le Seigneur encore plus, puis de rendre le royaume de Dieu beaucoup plus réel, puis de nous aider à marcher pour Dieu, puis à persévérer. Il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Galates 5:16. Pour en revenir à notre sujet, là. Quand on est en train de lire notre Bible, puis qu'on est béni par les choses qu'on y trouve, On n'a pas le goût de convoiter. Hein? Quand on est en train de prier et qu'on ressent la présence de Dieu, on n'a pas le goût de médire de personne. Quand on est touché par certains cantiques, puis qu'on ressent l'Esprit de Dieu dans l'Église, dans notre cœur, on n'a pas le goût de se quereller avec les autres. Quand on se rend disponible à Dieu, puis qu'on est en train d'exercer le don que Dieu nous a donné, puis qu'on sent l'onction du Saint-Esprit sur nous autres, on n'a pas le goût de pécher. Ou quand on évangélise, puis que l'Esprit de Dieu est en train de nous inspirer des paroles, on n'a pas le goût de pécher non plus. À travers toutes ces choses-là, la chair se trouve assujettie par l'Esprit, engloutie, baptisée dans l'Esprit. Puis on est comme transporté dans un lieu où la tentation a très peu de pouvoir sur nous autres. Alors il faut rechercher à être rempli de l'Esprit. Comme l'apôtre Paul nous l'a dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit. Le vrai baptême de l'Esprit de Christ, dans l'Esprit de Christ, ce n'est pas une expérience que le croyant a fait une fois pour toutes à sa conversion ou plus tard. On doit au contraire s'efforcer de faire de notre baptême du Saint-Esprit une expérience constante tout au long de notre vie chrétienne, afin que ce qui est mortel ou charnel en nous soit englouti dans la victoire, nous dit 1 Corinthiens 15:54. D'un côté, il y a ceux qui vivent juste pour éprouver des bénédictions à travers le sentiment. De l'autre côté, il y a ceux qui pensent que tout sentiment agréable qui peut se rattacher à leur vie chrétienne vient du diable. C'est pas des blagues. Il est grand temps qu'on retrouve l'équilibre dans ce domaine-là, les amis. On connaît mal le Saint-Esprit. Puis on se connaît mal nous-mêmes aussi en tant qu'être humain, comment on est formé. On a tous peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est normal. Puis quand on a peur, quand on a des préjugés, on se ferme. Puis quand on se ferme trop, on se prive de la grâce de Dieu. Tenons-nous-le pour dit. Selon moi, là, chaque chrétien devrait faire lui-même une étude biblique à propos du Saint-Esprit, puis s'efforcer de découvrir ce qui est en droit de s'attendre de lui ou non. On doit découvrir ce que le Saint-Esprit peut, et ne peut pas nous donner, puis se débarrasser de nos préjugés. Il y en a qui ont peur des expériences spirituelles, puis il y en a qui n'ont pas assez peur. Étudions les Écritures à ce propos-là. Rejetons toute expérience qui n'ont pas de précédent biblique, mais acceptons humblement celles qui en ont. Soyons ouverts à les faire nous autres aussi. En conclusion, disons que les croyants doivent donc premièrement reconnaître l'auteur de la sainteté, qui est Dieu, de faire ensuite tous leurs efforts pour coopérer puis obéir à la grâce de Dieu, puis de chercher à être remplis du Saint-Esprit par tous les moyens de grâce que Dieu a mis à notre disposition. Amen.